Il était sur son char.
Amateur.
Il n'y a pas d'armes. L'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Clandinaire.
Journal vivant.
Construction.
Obéir à sa voix.
C'est un malade, hein, c'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Oui.
Imiter son silence.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Théâtre de la Gamelle, votre émission de théâtre, tous les vendredis de 13h à 14h sur Radio Canu, le 102.2. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture d'Amer M de Joséphine Serre, qui a été présentée lors des Journées des auteurs et des autrices de Théâtre de Lyon en 2016. Donc, Amer M, ça parle d'une rencontre, d'un portefeuille retrouvé, de numéros d'immatricule qui en disent long, et puis en même temps, pas tant que ça. C'est cru un numéro. Donne-moi ton numéro de carte vitale et je te raconte ta vie. Ok, alors 2, 88, 42, bah 2, parce que je suis une fille, enfin une féministe en déconstruction du genre, enfin bref. 88, bah 88 c'est mon année de naissance, ouais, fin des années 80, t'as vu. 42, bah 42 parce que je suis synthé, et donc mon petit accent quand je suis un peu stressée, bah voilà, je le sors. Et puis bah après... Après, on contextualise, on farfouille, on ouvre les livres d'histoire, on squatte l'INA et on imagine. C'est une lecture qui est proposée par Julie Felgerol, Stéphane Rothenberg, Yves Bertrand et Delphine Leroy. Je vais vous lire tout d'abord la petite préface à ce livre. Nous ne voyons pas toujours et le plus souvent nous tâchons à ne pas voir la misère du monde. Mais nous ne pouvons pas ne pas admettre que cela fait un bruit, une rumeur inlassable que nous mélangeons sans savoir à la petite musique mécanique et sérinante de nos progrès et de nos dérivages. Chacun a ses raisons d'aller à cette écoute, et ses manières différentes servent à changer ce bruit du monde que tous en même temps nous entendons ici, là. Et ces raisons que nous avons arraché à une difficile passion d'écrire et de créer, de vivre et de lutter, deviennent aujourd'hui, pour nous, des lieux communs que nous apprenons à partager. Mais lieux communs précieux, contre les dérèglements des machines identitaires dont nous sommes si souvent la proie, comme par exemple du droit du sang, de la pureté de race, de l'intégralité, sinon de l'intégrité, du dogme. Nos lieux communs, s'ils ne sont aujourd'hui d'aucune efficacité, absolument d'aucune efficacité, contre les oppressions concrètes qui stupifient le monde, se tiennent pourtant capables de changer l'imaginaire des humanités. C'est par l'imaginaire que nous gagnerons à fond sur ces dérilictions qui nous frappent, tout autant qu'ils nous aident déjà, dérivant nos sensibilités à les combattre. Édouard Glissant, Traité du tout le monde. Une dernière petite phrase, à Monsieur Amer M, je ne puis pas donner la réalité des faits, je n'en puis présenter que l'ombre. Stendhal cité par Modiano.
Amer M de Joséphine Serre. Quatre acteurs actrices au plateau, A, B, C, D. A, B, C et D incarnent les différentes figures. Note sur A. A est toujours en présence. Il est l'absent qu'on tente de représenter, un fantôme d'Amer M. De la manière qu'on le souhaitera, A trace, collectionne, accumule ou réagence les matériaux évoqués par B, C et D. Il s'en fait l'écho dans l'espace. Prologue. Au fond, sur le mur, A trace lentement une ligne bleue de cour vers jardin, dans le sens de la calligraphie arabe. Très lentement, ces mots apparaissent.
Amer M est celui qui rentre. Un sempiternel Ulysse. Je le cherche à travers tout le reste. Dans cette traversée, dans l'air du large, dans la Méditerranée, dans une autre histoire. Je cherche mon histoire à travers les traces d'un autre.
Ulysse s'éveillait dans sa patrie.
Après sa longue absence, il ne la reconnaissait pas, car la fille de Zeus l'avait enveloppée d'un brouillard pour qu'il demeurât invisible et que sa femme, ses amis, son peuple fussent dupes jusqu'à ce qu'il pût enfin se faire connaître d'eux. C'est pourquoi toute chose aux yeux du maître semblait autre. Il se leva d'un bond, contempla sa terre natale, puis soupira et, frappant du plat de la main ses cuisses en gémissant, il dit ces mots.
Hélas, en quelle terre encore ai-je échoué ?
Il regrettait sa patrie, traînant sur le rivage de la murmurante mer avec de longs gémissements. Athéna, dont l'œil étincelle, s'approcha sous les traits d'un tout jeune pâtre de troupeau et lui dit
« Es-tu sot, inconnu, ou viens-tu de si loin que tu ignores ce pays ? Car ce n'est pas un lieu si anonyme, beaucoup de mortels le connaissent. Oui, cette île est rocheuse et peu faite pour les chevaux, mais on y trouve du blé en abondance, du bon vin. Les forêts y sont de toute essence et les abreuvoirs toujours pleins. C'est pourquoi, étranger, le nom d'Ithaque a gagné Troie, qu'on dit pourtant être fort loin d'ici. »
Ainsi dit-elle. Alors, Athéna chassa la nue, mais au fils de Zeus, la terre ne put apparaître. Ulysse, l'endurant, sentit ses entrailles amères quand la brume persista de lui cacher sa ville. Alors, il frappa l'asphalte humide et sans attendre, élevant les mains.
« Que ferais-je dans cette nuée profonde, pour le temps qu'il me reste, si Athéna la pillarde me prive, y étant, de revoir mon pays ?»
Athéna, dont l'œil étincelle, répondit
« Rassure-toi et ne prends point souci de tout cela, car il te reviendra, amer l'incertain, d'errer encore et de mourir méconnu. À ton voyage, il est bon que nulle résolution ne soit donnée. »
Amer l'absent le savait. Il y avait longtemps que, d'un coup de baguette, la fille de Zeus l'avait rendue méconnaissable à tous les yeux. Elle avait fait tomber ses cheveux blonds et posé sur tout son corps la peau d'un homme très âgé. Elle avait éraillé ses yeux jadis si beaux. Elle avait jeté sur ses épaules un ample caban râpé, donné une pauvre béquille et mis un affreux calot de laine mitée sur sa tête.
Attends, arrête-toi. Tu es le premier homme que je vois ici. Dis-moi avec franchise, toi qui passes ici les yeux ouverts.
Ça va, monsieur ?
Dis-moi, vers quelle mer sonnent ces longues sirènes ?
Ça ? La Méditerranée ?
Dis-moi où je me trouve, car je ne puis voir au-delà de mes pauvres mains et je ne sens qui m'environne que les vapeurs d'essence. En quel port ? Sur quelle jetée sommes-nous ?
T'es sur la jetée Kheireddine. C'est le port d'Alger. Là, tu viens de quel bateau ?
Carte
de visite, permis de conduire,
votre nouvel avoir 232,29€,
monsieur Amer,
Colette. Permis de conduire, récépissé d'une opération financière,
nouvel avoir de 232
euros,
matériaux, traces, A, B, C, D, Benjamin Stora, le général de Gaulle, François Mitterrand, Gaston Thompson, 1, présence,
début de validité,
29 avril 2001.
Adresse ?
73 rue du Faubourg Saint-Antoine.
Activité professionnelle ou motif de séjour ?
Toute profession en département français dans le cadre de la législation en vigueur.
Date d'entrée en France ?
54.
Date d'expiration ?
28 avril 2011.
Né le ?
12 janvier 1932.
A.
Inservile, les Isères.
Sexe ?
M.
Profession ?
Retraité.
Numéro carte de Paris Santé ?
19, 20, 19, 15, 19, 0, 20, 42, 562, 405.
Fin de validité ?
2 novembre 96.
Numéro de compte ?
75, 20, 01, 956, S.
La banque postale, numéro de carte ?
54, 0, 15, 0, 5, 75, 98, 55, 95, 60, 32.
Code confidentiel, caisse d'allocation familiale ?
07, 62.
Vous avez peur ? Vous fumez quoi comme cigarette ?
Qui vous a dit que je fumais ?
Je sais pas, vous fumez ?
Oui.
Vous fumez quoi alors comme cigarette ?
Gauloise bleue.
Athénolol, 100 000 grammes.
Ok.
Vous êtes né à Isserville-les-Isères ?
Oui, non, ça n'existe pas, Isserville. Ça n'existe pas. J'y suis allée à Alger, en bateau, depuis Marseille. Mon chauffeur de taxi, Toufik, était kabyle. Lui ai demandé s'il connaissait cette ville.
Isserville, je ne connais pas, mais les Isères, oui.
Parce que dans le portefeuille, il y avait écrit qu'Amer était né à Isserville-les-Isères. Donc bon, Toufik, je dis, je voudrais aller à Isserville, enfin, aux Isères. Loin ?
Non, à 1h30 environ d'Alger.
je vais peut-être y aller. Je rentre et demande au Glycine, c'est là où j'étais en résidence, si ça craint pas pour moi, française, jeune femme, d'aller là-bas. Moustapha, un médecin, me demande.
C'est où en Kabylie? Vers Tizi Ouzou?
Oui, environ à une heure d'Alger, vers Tizi Ouzou.
Ah, il y a eu des attentats par là-bas, il y a pas longtemps.
Puis Moustapha dit.
Les Isser, je vois, mais Isserville, je vois pas.
Bah là, ça fait deux fois.
Ce serait pas plutôt Borj Meinael?
Dit Moustapha. Borj quoi? Je dis. Non, parce que je vois pas trop le rapport entre le nom Isserville et le nom Borj machin, là. Avec d'autres résidents, on se met à chercher. On prend des cartes du nord de l'Algérie. Moi, je rapporte une carte téléchargée depuis un site sur Isserville, les Isser. Pas d'Isserville sur les cartes, alors on fait des recoupements. Et là, Borj Meinael sur les cartes qu'on a dans les mains et Isserville sur ma carte téléchargée, on remarque. Autour, il y a les mêmes noms de fleuves, même route, même distance, même relief, etc. Isserville, c'est bien Borj Meinael. Je réalise mon erreur. À cause d'un cercle vert sur la carte téléchargée, le nom était caché. Bien marqué Borj dans le cercle, mais Meinael, c'est écrit en dehors. Et moi, je m'étais focalisée sur le nom Les Isser, sans remarquer l'absence du nom Isserville. Puis, recherche internet, les attentats dont parlait Moustapha, c'était justement là, à Borj Meinael, en février dernier.
Inch'Allah, maintenant c'est fait, tu risques rien.
On me dit, je suis très rassurée. Un autre jeune homme m'explique.
Borj Meinael, c'est une ville sur une zone frontière. C'est les portes de la Kabylie. On l'appelle aussi 15 et demi, parce qu'elle est à mi-chemin entre les wilayas 15 et 16, la 15 de Tizi Ouzou et la 16 d'Alger.
Finalement, on y va avec Toufik. Lui-même, bon, pas très rassuré. Il me dit...
Tu sais, cette ville, c'était un gros bastion du FIS pendant la décennie noire.
Moi, ah oui. L'ambiance est un peu tendue, c'est pas tout à fait Alger. Toufik me dit...
Je sors pas me balader, puis je me gare pas. Tu fais ce que t'as à faire à quelques mètres de la voiture et puis on repart.
Ok, ça me va.
Mais qu'est-ce que tu cherches en fait? Je peux t'aider.
Il s'impatiente. Bah tu sais, j'ai retrouvé ce portefeuille et dedans il y a marqué qu'il est né là. Je voudrais voir tout ce qu'il a vu. Il est né dans les années 30, il est parti dans les années 50. Donc tout ce qui est années 30, 40, 50, c'est ça que je veux prendre. Alors Toufik m'aide.
Là, regarde, ça c'est vieux. Ça là aussi c'est vieux. File-moi ton appareil, c'est de mon côté.
Donc voiture avec moteur qui tourne. Je sors 30 secondes vite fait pour prendre des photos. Je laisse limite un pied dans la caisse. Clac clac clac. Je prends tout ce que caméra aurait pu voir. Et là peut-être même un bâtiment.
Oui la ville. Ils m'ont dit ah strange où on va par contre c'est là où on fait le défilé pour danser. Ils disent mais comment je prenais les photos.
Enfin tout ça pour dire que Isserville c'est le nom colonial en fait. Mais sa carte de résident elle date de 2001 et dessus il y a écrit qu'il est né à Isserville les Isser. Donc ça veut dire que quand l'agent de police de la préfecture lui a demandé où il était né, bah lui, il a pas dit Borj Meinael, il a répondu Isserville. Il a dit qu'il était né dans une ville qui n'existe pas.
Et 01 46 35 70 13, c'est à qui ce numéro?
C'est à moi, c'est mon numéro.
Et vous vous appelez?
Colette. Colette BR.
Profession?
Je suis musicienne à Radio France.
Vous avez quel âge?
Maintenant?
Oui.
71 ans.
Vous vivez seule?
Oui.
Vous êtes déçu?
Oui, non.
Vous jouez de quoi comme instrument? Vous pensez à quoi là?
À Amer M.
Et qu'est-ce que vous avez joué?
Le piano. Je jouais le quatuor. Le quatuor pour la fin du temps. De Messiaen. Prends-le et avale-le, il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel.
Et lui?
Quoi lui? Un petit coup de fil me ferait plaisir. J'avais décommandé le docteur.
Vous voyez dans des hôtels, dans des restaurants, chez vous?
Sur notre cher banc, comme d'habitude, vers 4 heures.
Mais quand?
Le jour qu'il vous plaira.
Vous l'avez rencontré où?
À l'hôpital.
Et vous l'avez aimé?
A priori.
Vous avez des problèmes de mémoire?
Non.
Vous avez des problèmes de santé?
Oui, souvent. Moins qu'avant. J'ai été toxique.
Vous l'avez rencontré où?
À Alger, quand j'étais petite. Je lui ai acheté des cigarettes. Parfois, on en fumera une ensemble.
Vous l'avez rencontré où?
Chez le docteur Duclou, 3 rue de la Lancette. Je venais récupérer des radios et lui, il faisait de l'hypertension. Enfin, c'est ce qu'il m'avait dit pour ne pas dire qu'il avait une attaque quelques jours avant. On était vieux déjà.
Vous l'avez rencontré où?
Devant chez elle, sur son banc. Je lui ai demandé une cigarette. Elle m'a dit « Je vous la donne si vous vous asseyez à côté de moi pour la fumer. »
Dans quelles circonstances avez-vous rencontré Colette B?
Une nuit au bois. Elle venait d'être opérée. C'était la première fois qu'elle se reprostituait. Et moi, je l'avais plus vue depuis des semaines. Colin était enfin devenu Colette.
Vous l'avez rencontrée où?
À Alger. Je vendais des cigarettes dans la rue.
Mais alors, vous l'avez rencontrée où?
Putain, c'est pas vrai. J'arrête pas de vous le dire.
Eh bien, dites-le encore une fois.
C'était une sorte de piano-bar, porte de Montreuil.
La rue? Quelle rue?
Rue Horto. Elle donnait un concert.
Qu'est-ce que vous foutiez là?
Je suis entré comme ça. J'ai entendu le piano depuis la rue en passant, je suis entré comme ça.
Et après?
J'ai été très ému par la musique, alors je suis resté assis. Je voulais l'attendre. On a éteint les lumières et on ne s'est pas rendu compte que j'étais là. Quand elle est ressortie des toilettes où elle s'était changée, je lui ai dit bonjour et merci.
C'est tout?
C'est tout.
Pas d'argent, pas de documents?
J'ai rien à voir avec le FLN.
qu'est-ce que tu foutais hier soir sur le pont de Neuilly? T'étais en balade? Le FLN, ton chef de section. À la folie dans ton district, le chef de section. Son nom. Tu le balances un nom et tu retournes dans tes poubelles avec trois brûlures de cigarettes. Mais sans ça, tu veux pas nous parler? Tu cotises pour le FLN? Putain, il se fout de notre gueule, le bico. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte, putain? Tu parles pas le français, toi? Traduis, bordel.
Et il dit qu'ils avaient pas d'armes.
Et le commissariat plastiqué, hein? À qui tu donnes ton fric? Et la manif? Pourquoi t'y allais à la manif? C'est qui ceux qui t'en ont parlé?
Il dit qu'on leur donne jamais de nom, exprès. Exprès à cause de ça.
Et leur gueule, tu les as pas vus non plus? Le FLN, le chef de section. À la folie dans ton district, le chef de section, son nom. Va me chercher la bouteille. Bois, t'arrêtes pas. Il est bon, hein? Tu pourrais remercier. Tu tires l'école pour un bougnoule.
J'ai rien à voir avec le FLN.
Qu'est-ce que tu foutais hier soir sur le pont de Neuilly?
Il y a l'Arcali Keb.
Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit?
Salaud de Harki.
Bois, encore, espèce de porc. Tu m'en fous partout. Tu veux jouer à ça, mais tu vas pas gagner. Hein. Regarde bien maintenant. C'est ta carte d'identité, ça? C'est bien toi, là? La tête de con, là? C'est ta petite gueule d'arabe, c'est ça? Réponds.
Oui.
Tiens, prends-en une. Grille-la. Vas-y. Vous pensez à quoi, là? Vous m'avez pas répondu. Il n'y avait pas d'argent, pas de documents?
J'ai rien à voir avec le FLN.
Recommence l'histoire.
1932, 1954, 1954, 1962, 1988, 2001, 2011. Tout mon corps est traversé par l'histoire. Je crois qu'il ne nous est pas donné de savoir ni de monter. C'est traversé qui nous est imparti. C'est vrai. Je ne me suis emparée de rien. Et alors, et après? J'ai aimé. Une femme qui n'était pas ma femme. Un homme aussi, qui m'était interdit. Et une petite enfant. C'est beaucoup. Suffit-il de chanter? Moi non, je n'ai jamais pu, ni su, ni voulu me révolter. J'ai flotté dans l'oubli, dans la disparition de moi-même. Cela seul me semblait la possibilité de l'étreinte. L'unique possibilité de l'étreinte. Tous m'ont insulté pour ça. Comment ne m'a-t-on jamais tué? Je n'ai jamais pu le comprendre. Dites maintenant. Allez-y, écrivez, pensez, rêvez si vous pouvez. Je suis cet être en partance, je l'ai toujours été. Si rien de tout cela n'est arrivé, il se peut aussi que j'ai passé une vie à disparaître.
Vous savez ce qu'il est devenu?
J'imagine.
Vous savez ce qu'il est devenu?
Je sais pas. J'ai retrouvé son portefeuille dans ma boîte aux lettres.
Dans chaque village, on connaît le facteur. C'est un personnage qu'on porte dans son cœur. Recevoir une lettre vous met en émoi. Chacun se dit peut-être, il y en a une pour moi. Voilà pourquoi, quoi, quand le chien aboie, quoi, tout le monde se dit avec joie. Tiens, voilà le facteur. Son petit air est affranchi, comme ses lettres et ses colis. Tiens, voilà le facteur. Il apporte le journal et son bonjour matinal. L'été quand il fait beau, il vous dit il fait chaud. Mais quand tombe la pluie, il vous dit ça pleut aujourd'hui, hein. Tiens, voilà le facteur. Pour garder son amitié, soyez complètement timbrés. Le printemps fait naître les lettres d'amour. Et pour les connaître, on attend toujours. Mais par la fenêtre, un jour le facteur vous remet une lettre. Zut, c'est le percepteur. Voilà pourquoi, quoi, quand le chien aboie, quoi, tout le monde se dit avec joie. Tiens, voilà le facteur. À cheval sur son vélo, à côté quand ça monte trop. Tiens, voilà le facteur. Et pour les plis très urgents, en courant, il prend son temps. Quand il roule rapidement, ce n'est pas pour un urgent, mais c'est tout simplement parce qu'il est poussé par le vent. Hein? Voilà le facteur. Quand il roule un peu penché, c'est qu'il porte une lettre chargée. Sacré facteur.
Deux. Un portefeuille.
C'était il y a 5 ans.
Je suis rentrée chez moi, j'ai ouvert ma boîte aux lettres et là, je tombe sur cette petite masse noire sur quelques pubs. Je marque un petit temps, je crois. Je me sens bizarre rien qu'à l'idée de le prendre dans ma main, mais bon, je le prends. Il s'ouvre en trois volets, comme un triptyque. Je regarde s'il y a encore du fric dedans, rien. Je me dis qu'il a peut-être été chouré. Je décide de chercher une carte d'identité et là, je tombe sur plein de papiers.
Des adresses,
des cartes d'inscription,
des numéros,
de factures,
plein de trucs de la mairie de Paris.
Des adresses, des bordereaux,
des cartes de visite,
des sortes de factures.
Je trouve un document qui ressemble à une carte d'identité. Même format, plastifié, bleu. Mes yeux tombent sur la photo.
Il a une gueule.
On dirait mon oncle.
On dirait mon oncle.
Il a un nez qui se marre et l'autre qui
se dit vraiment qu'il a deux visages.
Il a une gueule.
Et là, ce qui m'a choqué, c'est qu'il s'appelle...
Amer. Amer, ça lui va bien.
Amer, c'est un beau prénom.
Amer, c'est pas banal quand même.
Sur les boîtes aux lettres autour de moi, pas de voisin au nom de M.
Il faut que je monte chez moi et que je pose tous ces documents à plat, parce que j'ai besoin un petit peu de m'aplatir moi aussi.
Je monte les 5 étages avec ce portefeuille dans la main, j'ouvre ma porte et là, je sais pas où le poser.
Pourquoi ?
J'ai l'impression que c'est quelqu'un.
Une âme, un esprit.
Bon allez, merde, sur la table de la cuisine.
Un petit verre de vin.
Je m'assois.
C'est comme si je m'apprêtais à forcer la porte, comme si j'allais regarder par le trou de la serrure.
Mais bon, il faut bien que je trouve quelque chose.
Méticuleusement, je rouvre les 3 volets du triptyque Amer M.
Hôtel du Centre, le Kremlin Bicêtre.
Jean-Pierre Savelle, à Bazinville.
Wartok.
Gospel, 2010.
Bureau de poste Richard Lenoir.
Athénolol, 100 mg.
Docteur Duclou, 3 rue de la Lancette.
Docteur Marie-Christine Merche, dentiste.
2000 francs.
Carte du retraité CNRO, 1992.
Monsieur Djibril résout tous vos problèmes. Spécialiste des problèmes affectifs. Vous vivez seul, vous êtes déçu et vous vous enfermez dans votre solitude. Venez me voir. La chance vous sourira et votre vie sera transformée. Mariage, succès, examen au concours, réussite pour commerce et affaires, permis de conduire, désenvoûtement, retour au foyer de la personne aimée. Travail sérieux, rapide et polyvalent. Réussi là où d'autres ont échoué.
Je vais bien trouver un numéro de téléphone.
Je fais des petites piles pour garder chaque document dans le bon ordre. Je les replie exactement comme ils étaient pliés.
Effacer toute trace de mon intrusion.
Je ressors la carte d'identité.
C'est un certificat de résidence d'Algérien. Au dos, je lis.
Date d'entrée en France, 1954. Activité professionnelle ou motif du séjour, toute profession en département français dans le cadre de la législation en vigueur. Adresse, 73 rue du Faubourg Saint-Antoine, 75 011 Paris.
Là, la carte expire dans 6 mois.
Je reprends donc, en entier cette fois, la pile de papier maintenue dans la poche centrale en plastique. J'épluche chaque feuillet un à un.
Madame Louisa.
Mardi, avec un E, 10 août.
Allocation familiale CAF de Paris.
Poste épargne. Monsieur Amer M. expire fin octobre 2011.
Square Louis Gentil.
Carte d'accès au restaurant Emeraude.
Je t'en prie, aucun.
Forfait hospitalier. Non, non, oui.
Chambre individuelle. Non, non, 80 francs dès le premier jour.
Là, je m'arrête.
Je suis déjà.
Il y a un mot écrit à la main. Sur un petit papier carré plié en deux. Je le déplie. C'est écrit au recto et au verso. C'est l'écriture d'une vieille personne, celle qu'on apprenait aux enfants pour le certificat d'études. Même au stylo bic, on peut la reconnaître. Elle est élégante, délicate, un peu nerveuse.
Ils sont de plus en plus méchants. Ils ont peur.
Ces deux phrases d'une écriture plus serrée ont l'air d'avoir été ajoutées comme après coup. Elles sont mangées en dessous par une lettre qui commence.
Cher Amar, ne pouvant aller au 104, étant malade, toxique rajouté plus rayon, infection plus rayon, c'est très pénible à supporter. J'espère que votre consultation sera bonne. Le Telfix ne marche toujours pas, répondeur avec voix de femme. Ayant décommodé le docteur, je n'irai pas aujourd'hui pour téléportable. Un petit coup de fil me ferait plaisir. Colette.
Avec un grand C majuscule et le E de Colette se développant en un étrange Y, comme pour signer.
Ils sont de plus en plus méchants. Ils ont peur. Cher Amar, un petit coup de fil me ferait plaisir.
Permis de conduire. Numéro de sécurité sociale, 43 bis rue de Stendhal.
Récépissé d'une opération financière, CASVP, Madame Gary, assistante sociale. Reçu de Monsieur Amer, 2000 francs, Montreuil, hôtel restaurant de la Poste.
Une carte de visite, en exergue, un mot écrit à la main.
Vous êtes très cher à mon cœur.
Et une signature. La carte de visite indique Colette B, pianiste à Radio France.
À la main, à côté du nom de famille, on a ajouté en lettres bâton un autre nom, R.
Votre nouvel avoir, 232,29 €, solde indicatif sous réserve des opérations débit-crédit. Ce médicament vous a été personnellement...
Vous êtes très cher à mon cœur.
Régime médical complémentaire, conservé sur récépissé. Vous êtes très cher à mon cœur, nationalité algérienne. Signature du titulaire, RF. Signature de l'autorité préfet de police, RF. Encore un mot, toujours la même écriture, encore plus fébrile.
Cher Amrak, étant très inquiète de ne plus vous voir au bois, j'espère que votre santé est bonne. Si j'ai fait quelque chose de déplaisant pour vous, soyez aimable de me le dire, c'est sans le vouloir. Rendez-vous sur notre cher banc, comme d'habitude, vers 4 heures, le jour qu'il vous plaira. Mes meilleures pensées vous accompagnent.
Ils sont de plus en plus méchants. Ils ont peur.
C'est très pénible à supporter.
Soyez aimable de me le dire, c'est sans le vouloir.
Le jour qu'il vous plaira, rendez-vous sur notre cher banc.
Le jour qu'il vous plaira.
Vers 4 heures.
Comme d'habitude.
Un petit coup de fil me ferait plaisir.
Colette
B. Bien,
pianiste à Radio France.
Square Louis Gentil.
Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un chez moi.
Je sélectionne quelques numéros.
Et je mets à passer des coups de fil.
Sans résultat.
Personne.
Possible de
non effacer des fichiers.
Numéro non attribué.
Information qu'on ne veut pas me délivrer.
Et je me rends compte. Amer M est en règle. Il a une carte de résident en cours de validité. Il touche une retraite. Il touche la CAF.
Je réalise mon réflexe. Il était algérien. Du coup, ma réaction, c'était d'éviter les flics.
Maintenant, je suis à la préfecture de police. Et la fille au guichet m'envoie chier.
Laissez ça dans la boîte aux lettres. C'est le travail du facteur.
Quand elle me l'a rendu, j'avais l'impression qu'il pesait 3 tonnes, ce portefeuille.
Je rentre chez moi.
Sur le chemin, je me dépêche. Une envie irrépressible.
Je sors mes clés, j'ouvre ma porte, je sors le portefeuille de mon sac, j'en tire un papier, 2, 3, 4.
Je les fous dans ma petite copieuse Canon Canon et je photocopie.
Je recommence.
5, 6, 7 feuillets.
Recto verso.
Recto.
Verso. Tout. Je ne laisse rien.
Maintenant, je lui rends son portefeuille au mec.
Je vais à une des deux adresses, la moins vieille et la plus proche de chez moi.
Rue du Faubourg Saint-Antoine. Au milieu des passants, un peu plus loin, je vois un vieil arabe, assez grand, même s'il est voûté, qui traîne un petit caddie.
Je le reconnais. Je me dis c'est lui.
Non, c'est pas possible.
Non, c'est pas possible, c'est pas lui.
J'arrive.
Petit renfoncement.
Porte fermée.
Pas de poignée.
Juste une serrure.
Pas de code, pas d'interphone.
Une boîte aux lettres.
Oui, mais pas de nom dessus.
Je vais repartir.
Là, le vieux de tout à l'heure.
Celui qui marchait avec son caddie.
Il s'arrête dans le renfoncement.
Il me jette un regard, il sort son trousseau de clés.
Il va mettre la clé dans la serrure.
Je l'interpelle. Il s'arrête.
Il a quand même un peu vraiment la même tête qu'Amère sur sa photo.
Bonjour monsieur, j'ai retrouvé ce portefeuille dans ma boîte aux lettres. Il appartient à monsieur Amère M. C'est indiqué sur ses papiers d'identité qu'il vit ici.
Il me regarde.
Je ne sais pas ce qu'il pense. Au bord des lèvres, la question.
C'est vous, monsieur ?
J'ose pas.
Pourquoi j'ose pas ?
Pourquoi j'ose pas ?
Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez ? Si vous connaissez cette personne, cette amère M, est-ce que vous pourriez lui rendre son portefeuille ?
Il marmonne quelque chose.
Il me fait un geste de la main.
Comme ça.
Je pose le portefeuille dans sa main. Il rentre.
Je n'ai plus jamais revu.
Chez moi, j'avais photocopié tous ses papiers.
3. Fossile directeur.
Les voilà.
Les 38 documents retrouvés dans le portefeuille d'amère M.
Vous voulez les voir ?
Il nous reste ça, de cet homme.
Il nous reste quelques espaces de sa vie.
Ceux de Colette B aussi, quelques traces.
Un paysage lacunaire.
On a tout photocopié.
Si vous voulez regarder.
Amère M nous regarde.
Amère M.
Pourquoi son portefeuille s'est retrouvé là ?
Est-ce qu'on lui a volé ?
Est-ce que ça signifie quelque chose ?
Est-ce qu'il l'a perdu ?
Est-ce qu'il a voulu s'en débarrasser ?
Est-ce qu'Amère M aurait délibérément cherché à disparaître ?
On a aussi reconstitué une liste des affaires qui auraient pu lui appartenir. Une veste, une pièce d'un franc, un paquet de gauloises bleues.
Il en reste dedans ?
Non, il en reste 3.
Donc il en reste ?
Oui, mais non.
Une casquette au motif caribéen, un billet de 1000 dinars, une boîte d'athénolol 100 mg contenant encore...
7 cachets.
Un pull, une partition d'Olivier Messiaen.
Quatuor pour la fin du temps.
Et puis ça aussi.
Ah oui, on a retrouvé ce cahier. C'est le journal tenu par la personne qui a retrouvé le portefeuille dans sa boîte aux lettres. Journal tenu entre septembre 2013 et juin 2014. Ces prises de notes décrivent son voyage sur les traces d'Amère M et de Colette B, de Paris à Marseille, à Alger, à Isserville-les-Isères.
Ça, ça va là. Ça, ici. Ils m'ont foutu un bordel dans mon portefeuille.
On pourrait lui créer un profil Facebook.
On pourrait organiser une séance de spiritisme pour le faire venir.
On pourrait déguiser en pompier pour aller vendre un calendrier et sonner à la porte de
Colette. On pourrait se connecter sur le site de la CAF avec ses mots de passe et ses identifiants.
Ça va pas ou pas ?
On pourrait aller en Algérie dans la ville de naissance d'Amère.
On pourrait mettre les fringues exactes qu'on voit sur les photos d'Amère M, se faire la moustache taillée, la même coupe qu'Amère et se balader dans la rue pour voir ce que ça fait d'avoir la même allure qu'Amère.
On pourrait se faire toute une journée au square Louis Gentil, assis, à donner à bouffer aux pigeons en espérant que quelqu'un arrive.
On pourrait prendre rendez-vous avec Monsieur Djibril, mais ça me fait flipper que ce soit trop l'entourloupe.
Oula, moi je me méfie des énergies, attention quand même.
Vraiment, t'as peur ?
Bah ouais, non mais enfin, je vais pas y aller en tant que plaisantin quand même.
On pourrait rencontrer des faussaires pour faire des papiers, des vrais faux papiers. Mais on dit au mec, tu nous changes les dates, tu nous mets 50 ans plus tôt et on revit la vie d'Amère.
Comment ça ?
Je disparais de la surface de la Terre, je deviens Amère officiellement pendant 20 ans et je me tape Colette.
On pourrait faire comme si Amère M, c'était peut-être le mec le plus important sur cette Terre. Il s'en est pas rendu compte, mais avec l'effet papillon, historiquement, il a bouleversé la face du monde.
Oh, un peu comme Forrest Gump !
On pourrait le faire, le thème astral d'Amère.
Il est chèvre de métal et capricorne.
C'est l'exilé, capricorne, c'est l'exilé, il est... Attends, 12 janvier 1932
Ah ouais, l'effet papillon, du style « Il passait square Louis Gentil ». Parce qu'il y a eu Colette et qu'ils se sont parlé, il s'est assis.
Parce qu'il s'est assis, il a fait, je sais pas, un appel d'air avec son cul, du coup il y a eu des feuilles qui ont été soufflées.
Du coup, il y a un oiseau qui s'est envolé.
Et le pigeon a chié sur le képi de De Gaulle.
Du coup, De Gaulle s'est arrêté, et l'attentat du petit Clamart, et il en a réchappé.
Les pénétrations du vent.
C'est quoi ça ?
Et continuité du torrent, c'est le mec qui fait passer... c'est l'incarnation des...
On pourrait réserver une chambre d'hôtel de la Poste et y passer une nuit.
Il est à cheval entre le yin et le yang.
On pourrait prendre 2-3 comprimés d'athénolol.
C'est les personnes qui concrétisent les projets.
Ah, intéressant.
On pourrait simuler un problème cardiaque pour rencontrer le docteur du clou.
On pourrait contacter Benjamin Stora et le convaincre.
C'est qui Benjamin Stora ?
C'est le pape de l'histoire franco-algérienne et de la guerre d'Algérie.
La guerre d'indépendance.
Oui, la guerre d'indépendance.
Et le convaincre de venir nous faire une conférence privée sur la France et l'Algérie.
Bonjour Benjamin Stora.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation.
Tout le plaisir est pour moi.
On a retrouvé ces documents, est-ce que vous pouvez nous en dire ?
On s'est nous-mêmes pas mal documenté, mais si vous pouvez étayer un peu notre discours.
Nous apporter quelques informations en plus.
Mais avec plaisir, montrez-moi.
Pourquoi cette fanfare quand les soldats par cas attendent les massacres sur le quai d'une gare? Pourquoi ce train ventru qui ronronne et soupire avant de nous conduire jusqu'au malentendu? Pourquoi les chants, les cris des foules venues fleurir ceux qui ont le droit de partir au nom de leur connerie? Nous n'irons plus au bois, la colombe est blessée. Nous n'allons pas au bois, nous allons la tuer. Pourquoi l'heure que voilà, où finit notre enfance, où finit notre chance, où notre train s'en va? Pourquoi ce lourd convoi, chargé d'hommes en gris, repeint en une nuit pour partir en soldat? Pourquoi ce train de pluie? Pourquoi ce train de guerre? Pourquoi ce cimetière en marche vers la nuit? Nous n'irons plus au bois, la colombe est blessée. Nous n'allons pas au bois, nous allons la tuer. Pourquoi les monuments qu'offriront les défaites, les phrases déjà prêtes qui suivront l'enterrement? Pourquoi l'enfant mort-né, que sera la victoire? Pourquoi les jours de gloire que d'autres auront payés? Pourquoi ces coins de terre que l'on va peindre en gris, puisque c'est au fusil qu'on éteint la lumière? Nous n'irons plus au bois, la colombe est blessée. Nous n'allons pas au bois, nous allons la tuer. Pourquoi ton cher visage dégrafé par les larmes qui me rendaient les armes aux sources du voyage? Pourquoi ton corps qui sombre, ton corps qui disparaît et n'est plus sur le quai qu'une fleur sur une tombe? Pourquoi ces prochains jours où je devrais penser à ne plus m'habiller que d'une moitié d'amour? Nous n'irons plus au bois, la colombe est blessée. Nous n'allons pas au bois, nous allons la tuer.
Quatre. Étymologie et territoire. France-Algérie, de 1880 à...
Nom, M. M, c'est un nom algérien assez courant. Prénom, Amer. Bon. Amer, adjectif du latin amarus, pénible. Un, qui a une saveur âpre et généralement désagréable comme celle de la quinine ou du café. Deux, figuré, mordant, offensant. Trois, figuré, pénible, triste, douloureux. Quatre, nom masculin, liqueur apéritive fabriquée à partir de l'infusion des plantes amères, fiel de certains animaux marins, principalement les poissons. Cinq, vocabulaire maritime, non masculin, un amer désigne un objet fixe et visible, situé sur une côte et qui sert de repère aux marins. Cela peut être un phare, un clocher, un arbre remarquable, se dit aussi un amer remarquable.
Sur certains documents, le prénom est en arabe, amar.
Phonétiquement, amar nous renvoie encore au vocabulaire marin. Une amar, non féminin, du néerlandais aenmaren, câble ou cordage servant à relier un navire à un point fixe.
Amer en arabe se dit mour.
Amar en arabe signifie bâtisseur. Date de naissance 12 janvier 1932. Ce jour-là, rien de particulièrement notable.
Attendez. 12 janvier 1932. C'était un mardi. Cette année-là, Céline reçoit le prix Renaudot pour Voyage au bout de la nuit. Ça, c'est la Miss France de 1932, Lucienne Namias. Et le 12 janvier, la guerre de Shanghai éclate entre l'Empire du Japon et la République populaire de Chine. Alors là, j'avoue, je connais pas trop cette histoire. Bon, ok, ok, on avance. Date d'entrée en France, année 1954. C'est le début de la guerre d'Algérie.
Absolument. Le 1er novembre 1954, les revendications indépendantistes en faveur de la création d'un État algérien se font connaître par la voie des armes. Le FLN passe à l'action. C'est encore une petite armée, 300 combattants dans les Aurès, 400 en Kabylie. Pourtant, à l'aube du 1er novembre, une opération d'envergure commence. Les hommes du FLN attaquent différents points stratégiques du pays. Des attentats ont lieu quasiment au même moment, puis tout au long de la journée du 1er novembre.
Les Français appelleront cette journée la Toussaint Rouge. La répression qui s'ensuit est une violence énorme.
Remontons 9 années en arrière. 9 ans avant la Toussaint Rouge. On est en 45, le 8 mai. Partout on fête la victoire sur le Troisième Reich. Et en Algérie, ceux qu'on appelait les indigènes viennent de combattre dans les rangs de la France libre. Pourtant, ils sont encore des sujets français. Le 8 mai, ils défilent dans les rues pour réclamer le statut de citoyen à part entière.
À Sétif, un jeune scout brandit le drapeau de l'Algérie.
L'armée française tire sur la foule.
C'est l'escalade. Le lendemain, en réponse à leur mort, des Algériens assassinent des Français et l'armée française réprime à nouveau, impitoyablement.
Des centaines d'arrestations et d'exécutions ont lieu à travers tout le pays.
L'aviation, la flotte, les prisonniers allemands, les tirailleurs sénégalais, même les chars sont lancés à l'assaut du peuple.
De nombreuses villes sont bombardées.
En quelques jours, 20 ans d'histoire s'écrivent d'un coup. Sétif mènera à la Toussaint Rouge et à la guerre d'indépendance.
Et Amer M, en mai 45, où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il en pense?
En 1945, Amer M a 13 ans.
Il aurait pu avoir un frère plus âgé?
En tout cas, il faut attendre 1958, au plus fort de la guerre, avant d'entendre De Gaulle déclarer.
Eh bien, de tout cela, je prends acte au nom de la France et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, la France considère que, dans toute l'Algérie, il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants. Il n'y a que des Français à part entière, des Français à part entière, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs.
À Nanterre aussi, dans les bidonvilles de la folie, on écoute à la radio la retransmission de ce discours, celui de « Je vous ai compris ».
Mais en 54, on n'en est pas encore là. Lors du déclenchement des événements d'Algérie, comme on les a longtemps appelés, François Mitterrand est ministre de l'Intérieur du gouvernement de Pierre Mendès France, et voici ce qu'il déclare à l'Assemblée.
L'Algérie, c'est la France. Et qui d'entre vous hésiterait à employer tous les moyens pour préserver la France ? Il y a une grande différence entre la Tunisie et le Maroc d'une part, et d'autre part l'Algérie, qui fait partie de la République.
Cette affirmation de François Mitterrand, elle ne sort pas de nulle part. L'Algérie, ça n'était pas une colonie comme les autres. C'était une terre de fantasmes. Depuis la conquête de l'Algérie par la France en 1830, beaucoup de Français ont rêvé d'en faire une terre de peuplement. Écoutez ce que dit le député Gaston Thompson en 1880.
L'Assemblée nationale décide que 100 000 hectares de terres algériennes seront attribués aux Alsaciens lorrains qui opteront pour la nationalité française. Le décret du 16 octobre se propose comme but principal le peuplement du pays par l'élément français. Ce besoin d'attirer un peuplement sérieux et de l'opposer comme contrepoids à l'élément indigène s'impose irrésistiblement.
En fait, un rêve a mûri chez certains entre les années 1830 et 1871, faire de l'Algérie une colonie où on pourrait créer une nouvelle race européenne, une civilisation idéale, en fusionnant les qualités supposées caractéristiques de chaque peuple. Le rapport de la commission d'études algérienne de 1833 trace les choix de peuplement.
Les colons doivent être recrutés non seulement parmi les Français, mais aussi parmi les étrangers, notamment les Allemands, aux qualités solides, les Maltais et les Mahonais, moins recommandables, mais s'adaptant facilement au pays.
Dès 1839, il est déclaré que l'Algérie est une terre à jamais française.
On comprend mieux pourquoi plus d'un siècle après, dans les entrailles de François Mitterrand, l'Algérie, c'est la France. L'Algérie, c'est autre chose que le Maroc, la Tunisie, l'Indochine ou la Nouvelle-Calédonie. L'Algérie, on ne la lâchera pas.
Je suis française et avant la découverte de ce portefeuille, avant ma rencontre avec Amer M, je n'avais rien compris de tout cela. Aucune conscience des enjeux, ni de leur échelle, ni du poids de cette histoire dans notre présent. On ne m'en a quasiment jamais parlé. Je ne pense pas avoir eu une heure entière de cours au lycée à ce sujet.
L'Algérie. Quelle attraction, quelles images. Des murs blancs, des palmiers, des femmes aux grands voiles ou des traînées de sang sur les mêmes murs blancs. Quels tabous, quelles horreurs et pourtant quels fantasmes.
Quel vague souvenir plus ou moins douteux d'une promesse déchue.
5. Témoignage.
Voilà que l'opprimé n'a d'autre refuge que le pays de l'oppresseur. Au port de Marseille, j'ai changé de l'argent et j'ai pris le train de la gare de Saint-Charles. Le soir, j'étais à Gare de Lyon. C'était la flotte. Il faisait noir. J'ai dit, c'est ça la France ? Là, j'ai commencé à avoir un début de regret. Après, ça a été, mais l'arrivée à Paris, ça a été terrible. Qu'est-ce que je fous là ? Je me suis dit. Puis j'ai pris un taxi et j'ai rejoint mes deux frères à l'hôtel. Ils travaillaient de nuit chez Renault à Choisy. J'arrive, personne. Je suis resté à la porte de l'hôtel pendant 2 heures. Quand ils sont arrivés, ils ne m'ont même pas reconnu. La dernière fois qu'on s'était vu, j'avais 8 ans. Ça a été la fête ce soir-là. C'était juste avant la guerre. Le bordel n'avait pas encore commencé. Ils m'ont fait picoler. Faut que t'apprennes, ils me disaient. Ça les faisait marrer. Je suis amar et je suis amer. Amar l'absent est amer à Paris. Amer l'absent est amar à Alger. Et vous, mes enfants ?
La vie
est le tube de l'été 54, c'est ça qui passe en boucle sur les ondes de France. La voix riante de Luis Mariano, son accent espagnol s'est air roulé.
Des baisers lumineux, c'est magnifique. Donner son cœur avec un bouquet de fleurs, oh là là là.
Années 50, on part à la mer en 4 chevaux, on met des chapeaux de paille, les filles portent leur premier bikini. À l'affiche des cinémas, il y a le visage rond de Giulietta Masina dans la Strada, cheveux ébouriffés sous son chapeau melon. On roule en repensant aux vacances de Monsieur Hulot et on est content d'avoir une voiture moderne. La guerre d'Indochine est terminée depuis le 20 juillet. On chante ça.
C'est magnifique, des nuits d'amour qui durent car à 5 jours, oh là là là.
La truite de Schubert ou encore le délicieux Mets deux thunes dans le bastringue. Les 30 glorieuses ont bien commencé.
Lui, il est sur le pont du bateau, peut-être même en tête, parce qu'on imagine un jeune homme de 22 ans qui s'arrache à sa terre et qui regarde devant. Alors il est comme ça sur le pont du Sidi Mabrouk 3.
36 heures en plein solstice pour traverser les eaux. C'était le printemps 54, Luis Mariano chantait « C'est magnifique » et lui, c'était un aventurier.
Arrivé en France en 1954 ? Pas du tout, je suis né sur le sol français, puisque l'Algérie c'était la France. C'est absurde, on était français ! Alors ça veut dire quoi, date d'entrée en France ? Il n'y a pas un truc pas logique là-dedans, non ?
Oh là là là, mais c'est magnifique. S'aimer d'amour à Paris pour toujours, c'est magnifique.
7. Hypothèse. Amer M est ici. Il est né en Kabylie. Il a été membre du FLN. Il consulte des voyants. Ceci n'est pas l'histoire d'Amer M. Amer M a eu plusieurs infarctus. Il fut amoureux de Colette B. On ne le connaît pas, on le connaît bien. Colette B est pianiste à Radio France. Amer M est vraiment né dans une ville qui n'existe vraiment pas. Amer M est absent. S'il fredonne une chanson, c'est une chanson qui m'est connue. Il est retraité du BTP. Il a disparu. Amer M est ici, mais pas en ce moment. Amer M est vivant. Amer M, c'est lui. Il n'a jamais fait partie du FLN. Il est arrivé en France en 1954. Amer M n'est pas ici, mais en ce moment, oui. Amer M n'existe pas. Il a vécu pendant des années rue du Faubourg Saint-Antoine à Paris. Ceci est Amer M. Amer M est un nom. Amer M est une femme. Amer M, c'est moi.
Et bien de tout cela, je prends au nom de la France.
aujourd'hui.
L'Algérie, c'est la France.
L'Algérie, il y a à part entière. Les Français sont arrivés avec les mêmes droits et les mêmes devoirs.
Mon pays, Paris.
Voilà.
Tu l'aimes et tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes et tu lui as donné ton âme.
Ne compte plus sur ses promesses. Elle t'aimera pas même à 100 ans. Elle t'a joué la double face. Elle changera à chaque instant.
Mais toi tu trouves tout ça c'est bon. Ne me dis pas non, c'est inutile. Car pour moi, tu es un con. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Laisse-la tranquille. Elle se moque de toi, ça se voit, non. Je te comprends, ce n'est pas facile. Car où tu marches, tu cries son nom.
Écoutez Amer M de Joséphine Serre, un texte mis en voix par Julie Fégerel, Stéphane Rothenberg, Yves Bertrand et Delphine Leroy. Merci beaucoup à vous quatre pour cette lecture et vous pouvez retrouver la seconde partie de ce texte la semaine prochaine à la même heure à partir de 13h. Et place à l'agenda culturel, car nous accueillons là en direct dans les locaux de Radio Canu Sophie Belvici qui va nous parler du prochain spectacle Bloody Memory. J'ai essayé de le faire avec l'accent anglais hein, quand même, tiens à préciser, qui sera présenté du 24 au 27 octobre au Théâtre de l'Uchronie. Alors le Théâtre de l'Uchronie, c'est un petit théâtre qui se trouve dans la rue de Marseille à la Guillotière.
Maintenant entrée rue Jangot.
Ah, je ne savais pas. Très bien.
Oui, maintenant on a une entrée avec un bar, un accueil, voilà.
Très bien. Est-ce que du coup tu fais partie de l'équipe du théâtre de l'Uchronie ?
C'est ça, je fais partie de l'équipe McGuffin qui a ouvert le théâtre il y a 4 ans. On en est à la 4e saison du coup.
Bien joué, bravo.
Très joli petit théâtre dans le 7e arrondissement à Guillotière.
Un théâtre du coup qui est autogéré parce qu'il ne doit pas avoir de subvention, j'imagine.
Oui, il est géré par la compagnie qui l'a ouvert.
Ok, super. Et donc, tu as écrit et tu mets en scène ?
Alors non, justement. Bloody Memory, c'est un spectacle que j'ai écrit mais que j'ai, et dans lequel j'avais très envie de jouer. Mais du coup, sujet trop proche de moi. Donc, j'ai préféré laisser le bébé, laisser la mise en scène à Pauline Dumont, qui était une de mes camarades de classe à l'école Factory, qui aussi a fait l'acting studio et maintenant est partie à Londres.
Ok. Et pourquoi tu nous dis que c'est un sujet qui est trop proche de toi ? C'est
C'est un texte que tu as écrit à partir de choses que tu as vécues.
C'est ça. En fait, Bloody Memory, c'est une vision onirique sur les maladies neurodégénératives. Et à la base, ce spectacle, je l'ai écrit parce que ma mère est atteinte du syndrome de Benson, qui est une maladie neurodégénérative qu'on peut apparenter à Alzheimer. Okay. C'est une atrophie du cortex occipital. En fait, ça atteint la vue en premier lieu. Ça, c'est une perte de repères qui, au fur et à mesure, va vers complètement la perte de l'identité et la perte de toutes les capacités.
D'accord.
Sujet du coup assez dur. Et moi, dans un premier lieu, j'ai voulu l'écrire, pas forcément le raconter, l'exploiter au grand jour, parce que c'est pas évident. Et j'en ai parlé parce que j'ai tourné dans un film qui s'appelle La Chambre Noire de Morgan Segert. Où pareil, on était tous reliés autour de la maladie et les gens du film ont encouragé à présenter la pièce de théâtre. Mais voilà, toujours en gardant le recul de ne pas faire la mise en scène pour pas non plus sombrer dans le pathos, parce que moi, dans la mise en scène, je vais toujours dans le pathos. Et là, quand même, ça reste un sujet hyper pathos, donc on va éviter. Et du coup, Pauline était là pour ramener le concret au spectacle.
Et justement, concrètement, du coup, on a plusieurs personnages sur scène. Vous êtes combien de comédiens ou de comédiennes?
Alors, on est deux comédiennes. Je joue avec Valérie Le Papelli, excellente comédienne. on est deux parce que sur scène, en gros, on a la personne qui subit la maladie et on a son petit hippocampe qui gère toutes ses facultés, tous ses souvenirs, qui lui raconte toutes ses histoires. Et cette petite hippocampe, je spoil, mais bon, sans spoiler, parce qu'on sait très bien ce qui va se passer à la fin, qui, au fur et à mesure, se dégrade et perd ses fonctions parce que le lien entre les deux se détache. La perte de l'identité, la perte de soi, la perte de connexion avec soi-même, en fait. C'est un peu comme si elle parlait avec elle-même pendant une heure.
Ok.
À travers cinq tableaux différents de dégénérescence.
Très bien. Et donc, toi, tu es le petit hippocampe.
C'est moi.
Très bien. Et pour la mise en scène, vous avez travaillé en amont sur une période de résidence au Théâtre de l'Uchronie où vous avez eu d'autres structures qui ont pu vous accueillir?
Alors, en fait, notre compagnie, la compagnie du Canard Bleu, on siège dans le premier arrondissement. Pas loin d'ici. Et on est en partenariat avec la mairie qui nous prête la salle d'Hydro. Et du coup, on répétait là-bas le Marmite Colbert.
Ah oui.
Voilà, Marmite Colbert, dans laquelle on a répété. On a un créneau depuis 3 ans. Ils nous font confiance. On a le même depuis 3 ans. Ça se passe très bien. Et du coup, on répétait là-bas. Et en plus, c'était compliqué parce que c'est la première fois que sur un spectacle, je mettais un gros décor. Parce que là, on a un gros décor. Vision onirique, donc gros décor. Que je vous invite à venir voir.
C'est toi qui a aussi fait la scénographie ou tu as glissé des idées aux oreilles d'une ou d'un scénographe?
Alors pareil, sur le film La Chambre Noire, j'étais avec Émilie Chauvel qui était seconde en maquillage, qui est aussi très bonne en scénographie. Et du coup, je sors des idées, je parle de plantes parce que pour moi, chaque faculté, c'est une plante qu'on a dans notre tête et qui, au fur et à mesure, on la nourrit ou on la laisse mourir. Et Émilie, paf, plein d'idées et elle m'a dit « je te propose quelque chose ». Le décor m'a séduit et du coup on est parti là-dessus sur quelque chose d'assez volumineux avec très peu de moyens
et c'est assez féerique. Ok, t'es à débrouiller. Vous êtes allé à Emmaüs, vous êtes allé...
Pire. Papier mâché.
Du papier mâché, waouh.
Le secret, je vous l'annonce tous ce soir. Enfin non, on n'est pas le soir, il est 14h. Papier mâché.
Ouais, bah ça demande du temps, du courage.
Ça demande du temps, de l'énergie, beaucoup de volonté et c'est le résultat est très très beau.
On a hâte de voir ça, donc ça sera au Théâtre de l'Uchronie. Alors moi, je ne le connais pas très bien, mais j'imagine que c'est quand même une salle relativement qui permet quelque chose d'assez intimiste.
Oui, c'est une petite salle qui ressemble un peu à une salle de cinéma d'ailleurs, déjà avec de par les fauteuils, la chambre un peu noire, et il y a 44 places. Et après, ça, on entend la rue à côté, ça laisse un petit côté assez intriguant, je trouve.
Mais c'est bien, comme ça, si on est trop... troublé par le spectacle, on peut se dire c'est bon, c'est du théâtre.
On revient à la réalité. Oui, c'est vrai, ça rappelle à la réalité, c'est ça.
Et du coup, pour ton écriture de pièce, donc tu es partie par rapport à cette histoire personnelle, donc un récit autobiographique, et tu as mis combien de temps à l'écrire? Ça a été quelque chose de difficile
En fait, clairement, j'ai comme quand j'écris à chaque fois, je lance des idées sur le papier, par-ci, par-là. Et puis, au moment où on m'a dit « fais là cette pièce, lance-toi », là c'est vraiment, j'y suis allée d'un coup. Ça a été difficile parce qu'il faut employer des mots, moi je fais toujours attention aux mots que j'emploie. On va dire que en 4 mois je l'avais fini.
Wow.
Mais il y a tout qui est là en fait, après il faut juste rassembler en fait.
Toi tu as déjà écrit d'autres pièces
Oui, j'avais écrit mon premier spectacle qui s'appelle « Le Lac ». J'avais joué au Théâtre de l'Uchronie, pareil, je suis un peu abonnée. On avait joué il y a 3 ans, en fait c'était mon projet de fin d'études à la base.
Donc tu es à la Factory, c'est ça ?
J'étais à Factory il y a 3 ans. Et je l'avais joué là-bas, c'était mon projet de fin d'études, comédienne, auteur, chef de projet, tout ça.
Alors, c'est quoi ces formations ? C'est tout en même temps
Non, en fait, c'est que c'est la formation comédien, réalisateur, c'est une école de cinéma. Okay. Il y a des monteurs, il y a des effets spéciaux, etc. Et en dernière année, on présente un projet, en fait.
Okay.
On a la possibilité de présenter un projet et j'ai voulu présenter une pièce de théâtre et me dire, allez, j'écris, je mets en scène, je joue. C'est passé. Et du coup, après, je suis sortie, c'était un peu ma carte de visite, et j'ai rejoué le lac il y a 3 ans, du coup, Tête de l'Uchronie. Spectacle sur l'introspection sur soi-même, avec le tiraillement entre les emprises et les pulsions. Voilà. toujours à l'intérieur, en fait. Toujours des dialogues avec soi-même.
Mais c'est ce qui est intéressant. C'est que tu nous exposes des bouts de toi qui peuvent se refléter avec des bouts de nous, être en résonance.
Ben c'est ça en fait, moi je dis pas que j'aime pas raconter des histoires, j'adore raconter des histoires, mais je pense qu'on a beaucoup à faire avec nous et on a un gros package nous déjà, et je pars d'expériences forcément que je connais, mais le but c'est que tout le monde se reconnaisse et rassembler tout le monde en fait. Pour ça par exemple Bloody Memory, je parle de mon histoire mais on se retrouve tous dedans, on a tous un proche qui a perdu un peu son identité, qui est décliné, dégénérescence ou... Après, j'ai une amie, elle m'a dit qu'elle a vu le divorce de ses parents dans ma pièce. Donc, par rapport aux choses qu'on ne peut pas gérer, les choses qui arrivent, sur lesquelles on n'a pas d'emprise, en fait. Parce que ces maladies-là, on ne les contrôle pas. On ne sait pas d'où ça vient, forcément. Il n'y a pas d'explication.
Et pour toi, cette pièce, tu l'as écrite aussi pour pouvoir ouvrir le dialogue par rapport à ces maladies qui sont parfois peu connues.
Exactement.
Par rapport aussi à des choses plus concrètes, comment on peut gérer, comment on peut accompagner une personne qui a des problèmes avec sa mémoire, qui a des problèmes avec son identité, voir qu'est-ce qui est, je sais pas du tout moi ce qui est déjà, je connais, il y a des auxiliaires de vie à domicile, il y a ce genre de structures qui sont mises en place, mais on parle dans l'actualité l'accompagnement des personnes âgées est assez décrié, donc
vraiment.
C'est aussi pour ça que du coup t'as voulu.
En fait, j'ai voulu surtout parler de. Enfin, ça fait un peu, mais j'ai voulu parler de l'humain dans tout ça parce qu'on oublie. Moi, je vois souvent quand on parle de pièces sur les maladies, on voit les médecins, on voit les diagnostics, on voit les cachets, on voit tout ce qui se pleut, mais on voit pas la personne en fait. Comment elle subit, comment elle vit la maladie. Et moi, j'ai vraiment voulu parler de sensations. Moi, mon écriture est sensationnelle et émotionnelle. Je voulais vraiment que les gens ressentent ça. Je voulais partager ça avec. Avec le public, vraiment, qu'on oublie tout ce qui est administratif, parce que bien sûr, ça prend du temps, mais vraiment, qu'on se concentre là-dessus, parler de sensations, comment on se sent à ce moment-là, parce que ma mère m'en parlait, et même je l'ai vu, je l'ai ressenti. Et voilà, tout simplement, sensibiliser l'humain avant tout, quoi.
Ok, bah, parfait, merci beaucoup. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant de conclure l'émission ? À part les dates qu'on va bien sûr...
tu les as dit en plus les dates
on
déjà.
On va les redire, le 24, du 24 au 27 octobre au Théâtre de l'Uchronie à 20h30.
Et oui !
Et est-ce qu'on peut retrouver ton actualité et les informations autour de ta compagnie sur un site internet, sur un Facebook
Alors la compagnie n'a pas de Facebook, on a déjà fait 4 spectacles, on en est à notre 4e spectacle, 3e création. Mais non, on n'a pas de support média, on a tous nos sites individuels...
Voilà. Rappelle-moi le nom de ta compagnie.
Nous, c'est la compagnie du Canard Bleu.
Ok. Voilà. Et aussi, on peut retrouver les informations sur le site du Théâtre de l'Uchronie.
Avec les réservations.
Avec les réservations, bien sûr, oui. Eh bien, merci beaucoup, Sophie Belvici.
Je dis
bien Belvici, pardon.
Pardon.
Non, mais tu fais bien de me reprendre, si je prononce bien. Et merci à vous toutes et à vous tous pour cette lecture. Merci aux auditeurs et aux auditrices.
Merci
je
à tous.
Je vous souhaite une très belle... journée, début, fin, milieu de journée, et puis à la semaine prochaine pour la partie 2 d'Amer M.
Il était sur son char.
Amateur,
propagande. Il n'y a pas d'armes, l'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Noble.
Journal vivant.
Construction. Obéir à sa voix.
C'est un malade, hein, c'est un vrai dingue, il est capable de tout faire. Oui.
Imiter son silence.